La théophanie, c'est un mot qui n'évoque rien pour les chrétiens d'Occident, quasiment rien. Baptême du Seigneur, ça existe en Occident, mais au fond considéré comme une fête mineure. L'Occident du deuxième millénaire a à peu près oublié la fête de la théophanie. La fête de théophanie, c'est la grande fête des orthodoxes, comme dit saint Sophrone de Jérusalem. Vous entendrez tout à l'heure la grande prière de bénédiction des eaux. Saint Sophrone de Jérusalem, 7e siècle. Il est le dernier patriarche à avoir connu la liberté. Il a vu l'invasion arabe, arabo-musulmane. Et quelle production liturgique magnifique. Vous entendrez cette admirable prière, Trinité supersubstantielle. Pourquoi est-ce que les orthodoxes nous attachons tant d'importance à cette fête de la théophanie? Je vais simplement résumer parce que une liturgie est très longue. Le Christ s'est préparé à sa mission pendant 30 ans à Nazareth dans le silence. Il faut quand même se dire que cet homme, Jésus, 30 ans dans un petit patelin de la Galilée, dans le silence total, personne ne connaît, le fils du charpentier de Nazareth. 30 ans de préparation dans l'intériorité et le silence. Ensuite, il se révèle, il va être révélé comme Messie par 3 ans, et il sauve le monde en 3 jours. 30 ans, 3 ans, 3 jours. Les préparations sont très longues, parce que nous sommes lents, l'homme. Parce que nous sommes des vieux pécheurs. Le monde est vieux quand le Christ arrive sur la terre. C'est un monde vieilli, déchu, malheureux, pauvre. Mais le Verbe de Dieu parle pendant 3 ans, ce qui est quand même fantastique. Pendant 3 années, il va révéler les pensées du Père. Et en 3 jours, il sauve le monde, il donne sa vie. Les accomplissements sont rapides parce qu'ils sont le fait du Saint-Esprit. Alors le Christ sort du silence quand son Père lui dit « va ». Et l'Esprit le conduit en Judée. Vous avez remarqué que la terre de mission du Christ, c'est la Galilée. Parce que la Galilée, c'est le mélange de toutes les nations. Il y a de tout là-dedans. C'est l'annonce de l'Église universelle. Mais tous les actes sacrés du Christ sont en Judée. Parce que la Judée, c'est là où il y a le temple. C'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Là, c'est le temple. C'est là où Dieu est habité avec les hommes. C'est ça, l'Église céleste. C'est ça le royaume de Dieu. Tous les actes sacrés du Christ, en tant que grand prêtre, il les fait en Judée. L'Esprit le conduit jusqu'à Jean-Baptiste. Alors il se passe cette rencontre incroyable. Incroyable. Jean-Baptiste est le cousin du Seigneur, et le fils d'Élisabeth, qui est la cousine de Marie. Jean-Baptiste voit arriver l'homme Jésus. Mais l'Esprit Saint lui a dit, c'est le Messie. Il dit, mais comment tu peux me demander une chose pareille? C'est impossible. Moi, un homme pécheur, mais comment je peux poser mes mains sur ta tête? Impossible. Moi qui suis impur. C'est tout en compte. Terrible. Et le Christ dit cette parole absolument théologique. Laisse faire maintenant. Accepte. Maintenant, il ne sera pas toujours de même, car un jour je vais remonter en gloire, ma nature humaine défiée. Laisse faire maintenant, car il nous convient d'accomplir toute justice. Nous, le Père, l'Esprit et moi. Nous, la Divine Trinité, nous avons décidé de sauver ainsi l'homme. Il nous convient. Accomplir toute justice, c'est accomplir les pensées justes de Dieu, les pensées justes du Père, qui sont exprimées par le Fils et accomplies par l'Esprit. Car il nous convient d'accomplir toute justice. Et Jean cède. Il accepte cette chose incroyable de poser ses mains sur le seul homme pur, le seul homme sans péché, Jésus-Christ, et de l'immerger. C'est un thème de repentance pour les péchés. Dans cet acte incroyable, le Seigneur nous montre qu'il porte toutes les conséquences des péchés de tous les hommes.
La base virale VPS a été mise à jour.
Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ce n'est pas l'eau du Jourdain qui le purifie, mais c'est lui, le Verbe de Dieu, qui purifie l'eau du Jourdain. Voilà le premier des grands mystères. C'est parce qu'il descend dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est les eaux, ce sont les eaux primordiales. Dieu commence le salut du monde par les eaux. Vous vous souvenez, l'esprit planait sur les eaux dans la Genèse. Les eaux primordiales, la matière primordiale. Tout ce qui sera la création est issu de ces eaux primordiales. Le Seigneur va commencer par purifier ces eaux qui sont salies, souillées, empuanties par les démons. Et le Seigneur accomplit un acte extraordinaire parce qu'il libère le cosmos. Et il libère les hommes de la magie. Jusqu'à la venue du Christ, les hommes ne pouvaient pas faire autrement que de pratiquer la magie parce qu'ils voulaient à la fois se protéger des forces amphériques et essayer aussi de se les concilier. C'est une espèce de grimace des rites liturgiques. Mais ils n'avaient rien d'autre. À partir de ce jour, le cosmos est libre. La magie devient inutile. Premier acte du salut du monde. Et ce n'est pas le seul. C'est pour ça que c'est une très très grande fête. Il y a d'abord ce baptême du Seigneur qui libère les eaux primordiales, le cosmos. Mais après qu'il eut accepté cet incroyable abaissement, cette kénose qui est une image aussi de son incarnation. Vous avez vu, il est descendu des cieux et s'est incarné. Et là, vous avez vu, il descend dans l'eau, c'est-à-dire dans le fond de la matière primordiale, dans ce qui est plus proche du non-être que de l'être. Ayant accepté cette kénose incroyable, il remonte et les cieux s'ouvrent, ça veut dire les anges s'écartent et le mystère divin est révélé. C'est ça les cieux s'ouvrent. C'est les neuf hiérarchies célestes s'écartent et il y a cette révélation divine inimaginable que l'Esprit Saint descend sur cet homme pour témoigner qu'il est le Messie. C'est le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, qui désigne Jésus comme Messie. C'est lui le Messie, et c'est lui le Sauveur du monde. Et c'est autre chose inimaginable, incroyable, impensable, qu'une voix se fait entendre. Nous savons par le contenu que c'est le Père qui s'exprime, mais ce n'est pas la voix du Père. Car le Père est inconnaissable, inaudible par nos oreilles, c'est la voix d'un séraphin, mais c'est la pensée du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui je me reconnais », on peut traduire d'après le texte grec. C'est quand même fantastique que le Père révèle à l'univers entier qu'il aime son Fils. Et il l'aime parce qu'il s'est abaissé, il l'aime parce qu'il va donner sa vie. C'est une révélation inimaginable. Nous entrons dans l'intimité de la Divine Trinité aujourd'hui. C'est la première fois depuis la création, première fois depuis la chute de l'homme que Dieu se révèle tel qu'il est, trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est fantastique. C'est unique dans l'histoire humaine. Révélation théologique, révélation sublime. Notre cœur explose de joie de cette révélation théologique. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le Seigneur va commencer à parler. Vous avez vu ? Il a d'abord été révélé comme Messie, Fils bien-aimé du Père. Et après, il va commencer à parler. Mais avant de commencer à parler, il va passer par l'ultime épreuve. Les démons s'inquiétaient beaucoup de voir cet homme, Jésus. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce gars-là ? Il est un peu bizarre. Il commence à s'inquiéter un tout petit peu. Il rôde autour du Seigneur. Et les pères de l'Église disent qu'à la théophanie, ils s'inquiètent de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que cet homme sur qui il s'est passé cet événement-là ? Et l'Esprit Saint le conduit au désert, et là, Satan attaque. Frontalement, Satan va l'attaquer. Il va dire, je vais en avoir le cœur net. Qui est-il, cet homme-là ? Et c'est au désert que le Seigneur va vaincre Satan, dans sa nature humaine. C'est toute l'histoire de notre salut qui commence. Et à Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.